Depuis quelques semaines, nous suivons les grands textes où Jésus nous parle de ce que signifie vivre en disciple. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, à partir du verset 27. Marc, chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis, pardon? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Jésus lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Pierre alors le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Mais il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est la question que pose Luc Ferry dans l'un de ses récents ouvrages. Il y examine les différentes réponses données dans l'histoire de la pensée ou des religions et développe entre autres l'idée qu'une vie bonne, réussie au sens philosophique du terme, ne peut pas se réduire à la réussite sociale et que la vraie réussite est plutôt dans les valeurs relationnelles. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Sur la scène jeune et branchée, la question est abordée de manière bien plus radicale, à la lumière d'une alternative drastique. Es-tu un loser ou un winner? Désolé pour les puristes de la langue française, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Le loser, c'est le perdant, le minable, celui qui essaye peut-être de se donner une apparence, une consistance, qui essaye peut-être de se donner le change, mais qui n'a pas de fond. Les filles le repèrent très vite et se donnent des trucs pour ne pas se faire avoir. J'ai vu ça sur Internet. Apparemment, ça ne marche pas dans l'autre sens. J'ai pas compris. Le winner, c'est le battant ou la battante. Celui ou celle qui regarde toujours plus loin, qui développe une attitude positive, qui accepte les questions, qui les transforme créativement. Il développe une attitude positive, qui fait de ses échecs des tremplins, qui unit ses capacités à celles des autres pour améliorer sa qualité de vie dans tous les choix qui font la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'une vie réussie? La réponse de Jésus à ceux qui le suivent nous conduit sur des chemins étranges, où il est question de croix, de renoncement, de perdre pour gagner, mais aussi de gloire et de salut. Jésus essayera-t-il de faire passer les losers pour des winners? ou offre-t-il juste une perspective différente? Comment recevoir aujourd'hui ce que nous lisons dans ce texte? Comment cela peut aujourd'hui impacter notre vie de manière pertinente? Examinons ce texte dans son déroulement. Tout commence plutôt sur le mode gagnant. Jésus fait un petit sondage d'opinion auprès de ses disciples pour savoir ce qu'on dit de lui. Qui suis-je à ce que disent les gens? La réponse qui domine dans les réponses données autour de lui, c'est que d'une manière ou d'une autre, Jésus est un prophète et un envoyé de Dieu. Et les disciples de Jésus lui rapportent fidèlement l'opinion générale. Alors Jésus pousse un peu plus loin. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous avez cheminé avec moi. Vous avez reçu mon enseignement. Vous êtes témoin de mes œuvres. Vous, qui dites-vous que je suis? Jusqu'ici, dans l'évangile de Marc, nous avons vu les disciples appeler Jésus « maître ». À plusieurs reprises également, on les voit s'interroger en disant « mais qui est-il celui-ci ?» à qui obéissent même les vents et la mer, par exemple. Mais Pierre ici, face à la question de Jésus, Pierre ici prend les devants et ose la réponse. « Tu es le Christ, dit-il, tu es le Messie, celui que Dieu avait promis, celui qui accomplit tout le projet annoncé par les prophètes pour Israël, pour les nations. » La parole a jailli de la foi de Pierre. Il fallait l'oser, cette parole. Il fallait l'oser. Car si Jésus a fait de grandes choses, et les disciples en ont été témoins pendant son ministère jusqu'à ce moment-là, Jésus n'a pas fait grand-chose de ce que l'on attendait du Messie. Et ça, il faut bien le noter. En particulier, les Romains sont toujours là. Ils occupent le territoire d'Israël. Et Jésus ne se préoccupe absolument pas de ce problème, ni dans son enseignement, ni dans ses œuvres. Transposer cela au temps de l'occupation de la France par les nazis, comment appeler libérateur quelqu'un qui n'évoque jamais ni les questions politiques, ni la résistance, ni ces choses-là? C'est la situation de Pierre au moment où cette question est posée. Et Pierre a su voir plus loin que les apparences. Il a su donner de la valeur à ce qu'il a vu de Jésus, à ce qu'il a vu en Jésus. Il ne s'est pas contenté d'un regard superficiel. Chapeau, Pierre, le plus perspicace, le plus audacieux des disciples dans ses belles conclusions sur Jésus. Une belle figure de vainqueur. Juste avant, petite parenthèse, la péricope avant, Marc nous a décrit la guérison d'un aveugle en deux temps. Jésus a agi pour cet aveugle une première fois, puis il lui a touché les yeux, il lui a demandé « vois-tu quelque chose ?» Il y a un résultat partiel. Il faut une deuxième action, où une deuxième fois Jésus leur touche ses yeux, et alors seulement l'aveugle voit tout d'une manière parfaitement nette. On s'est demandé pourquoi ce miracle en deux temps. Il est possible que ce soit une sorte d'illustration aussi, dans ces places-là, du discernement progressif des disciples concernant Jésus. Une première étape est réalisée dans la confession de Pierre, mais il restera à aller jusqu'à la pleine lumière qui ne sera donnée que par la passion et la résurrection de Jésus. Fin de cette petite parenthèse. Tu es le Christ, le Messie. Mais qu'évoquait ce mot de Messie au temps de Jésus? J'aimerais vous citer un texte de cette époque qui exprime l'attente du Messie. Un texte d'un écrit juif du 1er siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle le Psaume de Salomon. Et voilà, c'est une prière qui dit l'attente du Messie. « Vois, Seigneur, dit cette prière, et suscite-leur leur roi, fils de David, autant que tu connais, toi, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël. » Ton serviteur, ceins-le de force pour briser les princes injustes. Purifie Jérusalem des païens qui la foulent en les perdant. Purifie Jérusalem de manière à chasser les pécheurs de l'héritage par la sagesse et la justice. de manière à briser l'orgueil des pécheurs comme des vases du potier, de manière à briser avec une verge de fer toute leur substance, de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche, de manière que, devant sa menace, les païens s'enfuient loin de son visage, enfin de manière à reprendre les pécheurs par la parole de leur cœur. Voilà ce que l'on attendait du Messie, et Jésus n'a accompli aucun de ses espoirs, aucun. Et Pierre lui dit, malgré tout, tu es le Messie. Pierre n'a certainement aucune idée de la façon ni du moment dont Jésus manifestera qu'il est le Messie. Mais avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a vu, il confesse sa foi en Jésus. N'attendons pas non plus d'avoir toute la lumière sur tout avant de confesser notre foi en Jésus. Mais on remarquera quand même à quel point cette conception courante du Messie était celle d'un vainqueur, d'un super winner. Rien ne lui résiste. Il chasse les païens hors de Jérusalem. Il les détruit d'une parole de sa bouche. Le Messie est un pur vainqueur qui impose avec force la puissance et la victoire de Dieu. Comment Jésus réagit-il à la confession de Pierre? Le récit de Marc nous prend un peu de court. On s'attend au moins à une petite parole d'encouragement ou de félicitation. Et Pierre et ses compagnons écopent les pauvres d'un avertissement de Jésus. Jésus les avertit sévèrement, nous dit le texte, de ne dire à personne ce qui le concernait, c'est-à-dire de ne surtout pas prononcer ce mot de Messie. On imagine le doigt de Jésus bien pointé pour les reprendre. Surtout, ne dites pas cela. Jésus douterait-il de sa personne? Douterait-il de sa mission? Oh que non. Mais le chemin qui sera le sien pour accomplir cette mission est surprenant et totalement déroutant. Jésus le sait, Jésus l'assume, et Jésus veut le faire comprendre à ses disciples. Et c'est pourquoi il est dit, il commença à leur apprendre. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, mais qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus parle ici du plan de Dieu, il faut que, mais chaque mot qu'il prononce pour ses disciples est juste incompréhensible, totalement inaudible. Il faut le Messie, il souffre, il faut qu'il soit rejeté, mis à mort et qu'il ressuscite. Mais non, c'est pas possible. Le Messie est un vainqueur, pas un perdant qui serait rejeté, livré aux mains des hommes et qui se laisserait faire. Il détruit par le souffle de sa bouche, il ne subit pas. Ce sont ses ennemis qui sont mis à mort, pas lui. Lorsque nous lisons ce texte, nous savons, nous, ce qui s'est passé. Et quand nous disons « il faut qu'il soit mis à mort », etc., ça fait partie des choses que nous avons intégrées. Mais il faut bien nous rendre compte que Jésus, le jour où il disait cela, s'opposait à tout ce qu'on avait toujours dit, s'opposait à tout ce qu'on avait toujours pensé. Ce qu'il dit est juste impossible à imaginer. Du côté du Messie, comme du côté de Dieu d'ailleurs. Jamais Dieu n'enverrait quelqu'un pour subir ça. Et surtout pas son Messie, son envoyé suprême. Dieu n'est pas un perdant. Il y a eu assez d'humiliation dans l'histoire. Quand l'envoyé de Dieu viendra, c'est pour renverser. C'est pas pour subir une nouvelle humiliation. Comme on comprend Pierre, il plein de bonne volonté et de conviction spirituelle, fait des reproches à Jésus, lui dit « Mais non, ne pense pas comme ça !» Dieu est puissant, Dieu t'évitera cela. C'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Aie confiance. Le Seigneur a promis qu'il n'abandonnera pas les siens. Vous connaissez ce genre de sermon? Ce genre d'encouragement? Ce sont les mots qu'on trouve sur nos lèvres dès qu'un problème surgit, dès qu'un passage exigeant s'annonce pour nous, pour nos frères, nos sœurs, pour des gens de notre entourage. Dieu n'est pas un perdant. Il interviendra avec puissance. Et Jésus devra reprendre Pierre vertement pour ce genre d'encouragement. Il sait que son chemin est autre. Il a accepté que son chemin soit autre. C'est la volonté du Père que son chemin soit autre pour le salut des hommes. Ici, il nous faut marquer un temps d'arrêt et réfléchir à ce qu'apporte cette autre manière de voir entre le Messie invincible qui pulvérise ses ennemis et le Messie rejeté, souffrant, mais victorieux après avoir enduré le rejet. Il faut noter que chacun est victorieux au bout, mais la manière est totalement différente. Le Messie invincible est un Messie qui s'affirme, qui s'impose. Le Messie qui accepte le rejet partage d'abord la vulnérabilité des hommes. Le Messie invincible agit pour l'honneur de Dieu et le triomphe de son camp. Le Messie qui accepte le rejet n'est pas l'homme d'un camp, car il se place au niveau partagé par tous. Le Messie invincible est un vainqueur à sens unique. Le Messie qui passe par la souffrance et le rejet devient un espoir, un recours pour tous ceux qui souffrent. Le Messie vainqueur exhibe sa puissance et son triomphe. Le Messie qui endure le rejet manifeste d'abord son amour et fait de sa victoire le triomphe de l'amour. D'un côté, des valeurs d'affirmation, de l'autre, des valeurs de solidarité. Et nous savons que lorsque l'on pense à la croix de Jésus, il y a cette solidarité particulière, unique, qui fait qu'il a conduit à prendre même notre condamnation sur lui. Pourquoi souligner cette différence de valeur? Parce que c'est à cette lumière qu'il nous faut comprendre ce que Jésus enseigne à tous ceux qui veulent être ses disciples. Et nous voyons ensuite, après que Jésus ait parlé de son propre cheminement en tant que Messie, nous le voyons convoquer la foule ainsi que ses disciples. Et on voit Jésus énoncer une règle que l'on peut résumer en disant que le disciple n'a pas à suivre un autre chemin que son maître. Il est appelé à être un vainqueur, mais un vainqueur du même genre que son maître. Et c'est ici la parole de Jésus pour ceux qui veulent le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, moi qui ai dit ce qui sera mon cheminement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Le lien est évident entre cette affirmation et ce que Jésus a dit de lui-même, de sa façon d'être le Messie. Il faut que le Messie souffre avant de triompher. De même, il faut que le disciple qui suit Jésus soit prêt à endurer avant de triompher. Jésus emploie trois expressions qu'il nous faut essayer de bien comprendre. Jésus parle d'abord de renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Que veut dire cette expression? Ça ne veut pas dire nier sa personnalité. Jésus ne l'a pas fait. Il a affirmé qu'il était tranquillement, simplement. Ça ne signifie pas non plus renoncer à tout ce qui nous apporte, qui peut nous apporter joie et satisfaction. Nous avons lu tout à l'heure, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et lorsque Jésus nous présente Dieu comme Père, c'est un Père qui dit à ses enfants, « Mais tout ce qui est à moi est à toi. » Pas question de renoncer à soi-même dans le sens de renoncer à tout ce que Dieu pourrait nous donner comme joie, comme satisfaction. Donc renoncer à soi-même, c'est comme Jésus. Refuser les chemins de l'affirmation, refuser les chemins de la recherche permanente de soi pour se mettre à la disposition de Dieu et pour s'ouvrir justement à la solidarité avec les hommes. Renoncer à soi-même, c'est une invitation à l'ouverture, s'ouvrir à Dieu, s'ouvrir aux autres. C'est dans ce sens-là qu'il faut renoncer à soi-même. C'est renoncer de faire de soi-même le centre et le but. Nous ne savons pas à l'avance sur quel chemin cela peut nous conduire, mais l'orientation est là, clairement donnée et déterminée. Ça veut dire que nous refuserons d'être des gagnants, tout focalisés sur notre réussite, notre qualité de vie, notre promotion. Nous garderons toujours et d'abord le souci du Seigneur et le souci des autres. Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il prenne ce chemin, les dispositions qui ont été celles de Jésus comme le Messie venu vers nous pour manifester la solidarité, l'ouverture. Mais Jésus continue en demandant que son disciple se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Alors lorsque nous entendons cette expression, bien sûr nous savons que Jésus est mort sur une croix et nous savons toute la signification de la mort de Jésus sur sa croix. Et nous pensons cette invitation en pensant à la croix dont Jésus s'est chargé par amour pour nous. Mais il me semble qu'il faut bien se dire qu'avant la mort de Jésus, cette expression devait déjà signifier quelque chose pour ses disciples. Lorsque ses disciples ont entendu cela, ils ne savaient pas que Jésus serait crucifié. Que signifiait se charger de sa croix pour Jésus, pour les disciples et pour les foules à ce moment-là? Pour eux, les moments où on voyait des gens porter leur croix, c'était les crucifixions publiques. Les Romains obligeaient ceux qui étaient condamnés à ce supplice à porter eux-mêmes leur croix. Et donc un homme qui portait sa croix et qui passait là devant les autres était un condamné, un rejeté. Et Jésus dit en quelque sorte à ses disciples qu'ils doivent être prêts à endurer le rejet. Car en tant que disciples, ils ne seront pas toujours populaires. En tant que disciples, ils ne seront pas toujours applaudis. Leurs choix, leurs engagements leur vaudront parfois l'hostilité, la moquerie. Certains même s'opposeront jusqu'à les mettre à mort, car la croix va jusque-là. Donc se charger de sa croix, c'est d'abord dire être prêt à endurer le rejet, l'hostilité, la désapprobation des gens, leur moquerie peut-être. Mais Jésus a un mot qu'il faut bien entendre. Il se charge de sa croix. Ce n'est pas qu'il accepte sa croix ou qu'il endure sa croix, mais qu'il se charge, qu'il prenne sa croix. Et Luc ajoute même qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce qui veut dire que cette disposition est une disposition volontaire et non pas une disposition subie. Qu'est-ce que cela implique ? Est-ce que cela veut dire que les disciples de Jésus vont endurer chaque jour le rejet ou l'hostilité? Je ne crois pas que c'est cela ce que ça veut dire. Il me semble que ce qui doit nous éclairer, c'est l'exemple de Jésus tel qu'il est présenté dans les évangiles. Jésus n'a pas subi l'hostilité tous les jours, mais Jésus, chaque jour, a suivi fidèlement un chemin qui, il le savait, le menait vers Jérusalem, qui, il le savait, le conduirait au rejet des hommes. Et chaque jour, Jésus a dit oui à ce chemin, dont il savait l'issue. C'est certainement dans ce sens que Jésus lui-même s'est chargé chaque jour de sa croix, déjà au temps de son ministère public. Chaque jour, il a continué sur ce chemin, tout en sachant que, au bout, il y aurait la souffrance, ce qu'il annonce à ses disciples. Chaque jour, il a dit oui à ce chemin dont il savait l'issue. Il me semble que pour nous aussi, nous charger de notre croix, c'est d'abord une question de disposition. Être prêt à endurer le rejet si jamais il intervient, comme Jésus l'a été prêt, était prêt lui-même à endurer ce rejet le jour où il a donné cet enseignement. Cultiver cette disposition à ne pas être forcément populaire et nous dire que parfois, oui, certaines fidélités pourront susciter la déprobation ou l'hostilité. Mais avoir et développer cette liberté intérieure qui ne dépend pas de l'approbation ou de la louange des autres, mais qui se fixe sur ce que Dieu attend de nous, sur ce qui est droit, sur ce qui est juste, quel qu'en soit le prix éventuel. Il se charge de sa croix, une disposition à endurer éventuellement le rejet et surtout marcher fidèlement sur les chemins qui sont les nôtres, même s'ils peuvent aboutir à ce rejet. Il se charge de sa croix et qu'il me suive, poursuit Jésus. Cela peut sembler redondant parce que Jésus a déjà parlé de venir après lui, mais cela souligne le fait qu'il nous faut mettre en œuvre concrètement nos dispositions. Il ne faut pas seulement dire « je veux venir », mais il faut vraiment le faire. Et surtout, cela dit que lorsque nous le ferons, Jésus ne sera pas loin de nous. Nous serons dans sa ligne, nous marcherons dans ses pas. Il y a là une loyauté qui pourra s'exprimer et une communion qui pourra se vivre profondément. Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, à cette vie centrée sur lui, se charge de sa croix, qu'il prenne ses dispositions pour avancer, quel qu'en soit le prix, et qu'il me suive très concrètement et je serai là. Mais il nous faut encore un petit peu préciser l'image. Comment nous représenter ce cortège de Jésus et de ses disciples? Ils me suivent en se chargeant de sa croix. Certains nous proposent l'image mentale suivante en disant « Il y a Jésus qui porte sa croix et qui marche devant. Et tous ses disciples, avec leur croix, ils marchent à sa suite, à cohorte de ceux qui portent leur croix. » Et ça donne la vision, la compagnie des rejetés du monde, la compagnie des condamnés par le monde, des méprisés par le monde. Tous courbés, mais glorieux sous la croix. C'est une image que l'on emploie parfois pour dire « Jésus se charge de sa croix, les disciples doivent se charger de sa croix avant lui. » Je ne suis pas sûr que ce soit cela. Ou en tout cas que ce soit l'unique image. Car au moment où Jésus parle à ses disciples et leur annonce qu'il va souffrir, Jésus sait chargé lui-même de sa croix déjà à ce moment-là. Il a accepté le rejet des hommes. Et comment marche-t-il, Jésus? C'est un homme debout. C'est un homme debout. C'est pour ça qu'on le voit dans l'Évangile. C'est un homme disponible à sa mission. C'est un homme disponible aux autres. C'est un homme disponible au Père. C'est un homme disponible au bien, disponible à ce qui peut coûter, mais debout et libre, parce qu'il a assumé déjà qu'il y a un prix et qu'il a consenti déjà à ce prix. Et si nous acceptons l'idée que pour Jésus, porter sa croix voulait dire assumer dès le début de sa mission, que cette mission le conduirait au rejet des hommes, à ce moment-là, l'image d'un homme portant sa croix est l'image de Jésus tout au long de son ministère. Et là, c'est une image très belle. C'est une image qui parle de la liberté, de liberté d'être, une magnifique liberté, une profonde disponibilité parce qu'on a déjà fait le choix du don. C'est en tout cas ce Jésus que les évangiles s'attachent à nous décrire. Il souligne à bien des reprises avec insistance que Jésus marche vers Jérusalem. Jésus marche vers Jérusalem. On le dit souvent, ce n'est pas une indication juste géographique pour dire sa route, c'est la route de Jérusalem. Ça veut dire qu'il marche consciemment vers ce qu'il attend à Jérusalem. Ça veut dire Jésus s'est chargé de sa croix. Mais comment Jésus marche-t-il alors qu'il marche vers Jérusalem? C'est un Jésus libre, libre pour le bien, libre pour le service de Dieu, libre pour les autres, libre intérieurement. Jésus s'est chargé de sa foi, de sa croix, bien avant le moment où les Romains l'ont condamné à la crucifixion. Et c'est pourquoi tout le ministère de Jésus peut être pour nous l'exemple de ce que veut dire porter sa croix, et pas seulement la montée ultime vers Golgotha. L'apôtre Paul, me semble-t-il, va dans cette direction lorsqu'il médite sur le sens de la croix. Il dit dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Pour Paul, c'est clair, la croix de Jésus crée une rupture qui va dans les deux sens. Je suis peut-être crucifié pour le monde, mais le monde aussi est crucifié pour moi. C'est-à-dire, je ne suis pas accrochonné, je ne suis pas cramponné à l'opinion ou à la faveur des gens sur moi. Mes valeurs sont clairement indépendantes de cela. Et cela ne courbe pas Paul sous un fardeau qui l'écrase. Au contraire, c'est une sorte de lutte de liberté par rapport justement à ce monde. C'est ce qui lui permet d'entrer pleinement dans sa mission. Même si parfois aussi, cela coûte, et si cela peut coûter cher, et il faut le souligner quand on parle de porter sa croix. Porter sa croix, oui, c'est trouver cette disponibilité. C'est ce qui peut faire de nous aussi, des hommes et des femmes, debout dans ce monde, comme Jésus a été debout pour marcher sur les chemins de Galilée, pour marcher vers Jérusalem. Porter sa croix, ce sera peut-être endurer aussi parfois, mais pas uniquement être courbé, pas seulement être écrasé, non. C'est la liberté intérieure qui nous est donnée parce que nous avons fait les bons choix. Et c'est pourquoi, nous dit Jésus, sauver sa vie, réussir sa vie, être un winner ou un loser, ce n'est pas une simple question de réussite personnelle ou de réussite sociale, ou de notoriété ou d'aisance de vie. Les valeurs sont ailleurs. L'important, c'est de ne pas perdre son âme, nous dit Jésus. Parler d'âme, c'est parler de notre intériorité, c'est parler de nos dispositions, c'est parler de notre ouverture ou de notre fermeture aux autres, de notre ouverture ou de notre fermeture à Dieu. C'est cela qu'il ne faut pas perdre, c'est cela qu'il faut préserver, quels que soient les aléas de ce que nous pouvons vivre ou endurer ou recevoir ou ne pas recevoir des autres. Et puis parler d'âme, c'est aussi parler de cette autre dimension de la vie, par-delà la mort. Perdre son âme, c'est aussi rater la dimension éternelle de notre vie. Et Jésus termine en parlant de son rôle de Messie à la fin des temps, lors de l'accomplissement de toutes choses. Il est dit que le Fils de l'homme, après avoir subi le rejet des hommes, après avoir enduré la mort, mais après avoir vaincu la mort, viendra avec toute la gloire de son Père, nous dit le Seigneur. Mais alors se posera la question de notre attitude par rapport à ce qu'il aura accompli pour nous. Aurons-nous accepté ce qu'il a fait pour nous? C'est ce qui conditionne notre acceptation auprès de lui pour l'éternité. Aurons-nous également endossé ses valeurs pour marcher dans ses voies? Ou au contraire, aurons-nous eu honte de lui dans ce monde? Le ratage ou la réussite se mesureront à cette valeur donnée ultimement lors du triomphe de Jésus, au terme de son chemin de solidarité et de prix payé pour nous assurer le salut, le pardon et la réconciliation avec Dieu. Gagnant, perdant, winner, loser, réussir sa vie, perdre sa vie, ne considérons pas ces choses d'un point de vue extérieur et superficiel. L'essentiel est ailleurs, dans les dispositions profondes et dans les choix qu'engendrent ces dispositions. Veillons à cultiver l'état d'esprit qui était en Jésus. Découvrons la liberté intérieure que nous apporte cet état d'esprit dans l'ouverture à Dieu et au prochain. Demandons à Dieu la grâce d'honorer Jésus dans tout ce que nous pouvons apprendre de son exemple, pour qu'il puisse être un peu fier au moins de nous au jour du grand bilan, pour qu'il puisse surtout trouver de la joie à notre loyauté, en réponse à sa loyauté qui a été belle, entière, magnifique, libératrice. Amen.